j'avais toute ma vie désiré de faire le voyage d'Égypte. Mais le temps, qui use tout, avait usé aussi cette volonté. Lorsqu'il fut question de l'expédition qui devait nous rendre maîtres de cette contrée, la possibilité d'exécuter mon ancien projet en réveilla le désir. Un mot du héros qui commandait l'expédition décida de mon départ. Il me promit de me ramener avec lui, et je ne doutais pas de mon retour. Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte.
Alors nous sommes au printemps de 1798. Bonaparte avait convaincu le directeur d'organiser une campagne en Égypte, s'embarque à Toulon avec une armée de 54 000 hommes. C'est donc une opération militaire, mais c'est une opération qui est doublée d'une exploration scientifique, car il y a plus de 154 savants, des jeunes savants d'ailleurs, qui sont du voyage. Et Vivant Denon, lui, a obtenu de faire partie de l'expédition. Sans doute c'est grâce à Joséphine de Beauharnais qu'il a aidé dans la constitution de sa collection. Alors c'est un rôle important, Chantal Orgogozo, qu'a joué Vivant Denon avec cette découverte de l'Égypte.
Oui, tout à fait. Denon a 51 ans, donc déjà très âgé par rapport à l'ensemble de l'équipe des savants, part en Égypte avec un esprit très ouvert, très curieux. Il va tout d'abord débarquer à Alexandrie, rester un petit peu avec le général Menou dans le Delta, rejoindre Bonaparte au Caire. Il écrit à ce moment de son voyage qu'il ne voit pas suffisamment de monuments pharaoniques. Il s'en inquiète. Il va donc, grâce à Bonaparte, pouvoir rejoindre l'expédition de Desaix qui, en Haute-Égypte, poursuit Mourad Bey, un chef mamelouk, et va donc pouvoir croiser, regarder, étudier, dessiner assez longuement la plupart des grands monuments égyptiens qui se trouvent en Haute-Égypte.
Après avoir fait à toute voile un dessin de Kénoubis en descendant le fleuve en barque, il m'en fallut faire à toute bride un autre en remontant par terre, maudissant la guerre, les guerriers et l'importance de leurs opérations qui me faisaient toujours tout quitter pour courir en vain après des gens qui faisaient en un jour plus de chemin que nous en trois.
Denon va, par exemple, passer non seulement une première fois dans la région thébaine, mais il va y revenir 6 fois de suite pour aller sur les deux rives du Nil et très longuement dessiner et redessiner ces monuments. Ce sont donc des dessins qui vont faire date parce qu'ils sont beaucoup plus fouillés, beaucoup plus précis que ce que ses prédécesseurs avaient pu faire. Cependant, Denon est un artiste, un dessinateur, il y a donc une verve que l'on retrouve peut-être pas dans la description d'Égypte qui va être faite par la suite. C'est très vivant, son texte et le texte de son voyage est vivant, ses dessins le sont aussi, et il va tout de suite intéresser le grand public à l'Égypte.
On sait qu'il a un petit sac de crayons autour du cou, un portefeuille sous le bras et qu'il dessine même à cheval. Il n'arrête pas, donc ça évidemment ça surprend beaucoup ses compagnons de voyage militaires. C'est des dessins faits très rapidement, sans doute un petit peu repris à son retour. Il y en a plus de 300, ils ont été achetés par un Anglais, ils sont à sa vente après décès, ils sont maintenant quasiment tous au British Museum.
Il est très souvent en train de dessiner au milieu des batailles ou juste à proximité. Il a lui-même résumé, à côté d'un dessin qu'il a fait à Hiéraconpolis en Haute-Égypte, ses conditions de travail. Je vais vous le lire. « Je me suis représentée avec toutes les ruines de mon costume, suite inséparable de mes marches continuelles, de la perte de mes équipages et du peu de soins et de temps que j'avais à donner à ma personne. Occupée de mes dessins et de mon journal, je ne soignais que, je n'ai jamais quitté mon portefeuille, je le portais partout et la nuit, il me servait d'oreiller. Car c'est ainsi que j'ai fait mon journal et mes dessins, pour qu'ils eussent, sinon le mérite de la pureté, au moins la naïveté du moment et la vérité de la nature. »
Là aussi, je pense que la passion de l'art est la plus forte et de nom est effectivement resté dans les esprits comme quelqu'un qui n'a pas hésité à courir toute espèce de danger pour aller voir sur place les monuments. Même le choix de suivre Desaix en Haute-Égypte appartient à cette sorte d'impulsion irrépressible à aller juger de l'art sur place en se disant que là au moins il va pouvoir voir un tas de choses intéressantes.
Et Vivant Denon rapporte à ce moment-là la matière de deux livres qui seront publiés avec grand succès, traduits en trois langues. Ces deux livres, c'est un volume qui est composé du récit de ce voyage qui a duré 13 mois et un autre volume qui comporte presque un millier de gravures.
Le texte également rencontre des batailles, rencontre des personnages et des Égyptiens que Vivant Denon va pouvoir croquer, dessiner sur le vif, avec qui il va parler. Il nous indique les coutumes de cette population. Il a des pages très très belles sur les batailles qui sont livrées et sur la douleur des hommes des deux camps au cours de ces luttes. Mais évidemment, le plus important, me semble-t-il, c'est toute la partie archéologique, parce qu'il a une vision des monuments égyptiens comme personne ne l'a eu encore. En particulier, c'est le premier, avant Champollion, à dire que l'art grec n'est peut-être pas la seule chose importante, que d'autres monuments égyptiens ont non seulement été construits antérieurement, mais sont peut-être aussi beaux, et que le seul critère de référence n'est pas uniquement l'art grec.
Quand on se réfère précisément au voyage de Volney ou de Savary, les intentions sont autres. Chez Vivant Denon, il y a manifestement une double intention, mais qui relève d'un caractère là aussi immédiat, impulsif, à savoir raconter, tenir le journal de la campagne d'Égypte telle qu'il l'a vécue, ne pas hésiter à raconter les horreurs de la guerre. Il y a quelques très belles pages sur la mort, sur l'horreur de mourir loin de la France, qui sont certainement apportées à son crédit en termes de sensibilité, qui annoncent déjà une certaine esthétique pré-romantique à la manière de Chateaubriand.
Les mamelouks tombés de cheval se traînent sous les baïonnettes et viennent chercher avec leurs sabres les jambes de nos soldats. Le mourant rassemble sa force et lutte encore contre le mourant, et leur sang qui se mêle en abreuvant la poussière n'a pas apaisé leur animosité. Un des nôtres, renversé, avait joint un mamelouk expirant et l'égorgeait. Un officier lui dit « Comment, en l'état où tu es, peux-tu commettre une pareille horreur ?»« Vous en parlez bien à votre aise, vous, » lui dit-il. Mais moi, qui n'ai plus qu'un moment à vivre, il faut bien que je jouisse un peu. Jamais il n'y eut de bataille plus terrible, de victoire plus éclatante, de résultats moins prévus. C'était un rêve dont il ne restait qu'un souvenir de terreur. Pour la représenter, j'en fis deux dessins. J'ai voulu peindre dans ces deux sujets la guerre telle qu'elle est, généreuse et implacable, atroce et sublime.
Par ailleurs, s'il y a un vrai journal de la campagne, il y a aussi des considérations de type artistique faites in situ, justement, de manière immédiate sur l'art égyptien et les splendeurs qu'il a produits.
Et bien sûr, il est conscient quand même que c'est une chronique de voyage. Il y a des anecdotes, il y a des observations sur les vols sauterelles, par exemple.
Oui.
Sur la température, la difficulté de vivre dans cette chaleur.
On a manifestement là une démarche qui appartient à l'esprit des Lumières et à l'encyclopédie, et après tout le geste même de Bonaparte, à savoir faire monter à bord avec des milliers de soldats, 167 savants exactement, participe évidemment d'une volonté de connaître l'Égypte sous tous ses aspects.
Et puis quelques observations, nous dirions aujourd'hui, d'ethnologue sur la manière de vivre du monde qu'il rencontre.
Oui, là je pense qu'il répond à une injonction qui est celle des voyageurs du XVIIIe siècle, à savoir quand on se rend à l'étranger, on dépeint l'habitant, on essaie de constituer très vite une sorte de typologie des différentes populations. Cette typologie-là, Denon manifestement la trouve chez Volney et la reproduit sans grande originalité. C'est pas à mon sens là qu'au fond il est le meilleur. Au fond, quelque part, le style est assez disparate. Je suis assez frappée du fait que Denon n'ait, par exemple, pas songé à constituer des chapitres. Il est certain que le voyage en Égypte se présente comme une sorte de
un
tout,
bloc,
un bloc de 300 ou 400 pages selon les éditions. Et là, le lecteur doit vraiment se lancer. C'est un petit peu difficile. Et je pense que, précisément, dans son esprit, quelque chose est donné dans son caractère presque brut, qui sera accompagné d'ailleurs d'une partie où l'Égypte sera donnée à voir. Et quelque part, ce geste-là n'est pas le geste d'un écrivain.
Oui, mais on peut penser aussi que les voyages en Égypte qui vont suivre ont été influencés par Denon. C'est un pas de plus.
Oui, manifestement, je pense que c'est un regard sur l'Égypte qui marque un tournant. C'est-à-dire que là aussi, il se distingue, à l'exception de quelques reprises évidentes, il se distingue de Volney et Savary et même Nordaine, pour citer les plus évidents, et que quelque chose est donné de plus vivant, de nouveau. Là, on est obligé de reprendre cet adjectif, de résolument plus vivant.
Alors, qu'apporte-t-il à la connaissance du passé? Est-ce qu'il fonde, comme on le dit quelquefois, l'égyptologie?
Il a, semble-t-il, très concrètement aidé l'égyptologie. Juste avant de quitter le Caire, Denon montre ses dessins à Bonaparte. Bonaparte, à la vision de tout ce qu'il rapporte, va décider de créer deux commissions qui auront pour tâche d'étudier, de dessiner les monuments. Et ce sont donc ces deux commissions dirigées par Costaz et Fourier qui vont rapporter des portefeuilles de dessins tout à fait considérables. Ceci donnera naissance à la description d'Égypte publiée à partir de 1809, donc plusieurs années après Denon. C'est vraiment Denon qui va lancer la mode égyptienne.
Il a été également décrété qu'un festival sera célébré dans les temples de toute l'Égypte pendant ces jours, chaque mois, au cours desquels seront faits sacrifices et libations et toute autre cérémonie coutumière que l'on fait aux autres festivals.
La pierre de Rosette qui a permis à Champollion la découverte des hiéroglyphes a été trouvée pendant cette expédition d'Égypte.
Et un festival sera établi pour le roi Ptolémée, vivant éternellement, l'aimé de Ptah, le dieu Épiphane Eucharist, annuellement dans les temples de tout le pays, depuis le premier Thoth et pendant 5 jours, au cours desquels ils porteront des guirlandes et accompliront des sacrifices et des libations et les autres rites coutumiers, et les prêtres dans chaque temple seront appelés prêtres du dieu Épiphane Eucharist, en plus des noms des autres dieux qu'ils servent.
La fameuse pierre de Rosette a bien été rapportée par l'expédition, rapportée tout au moins jusqu'à la mer Méditerranée, puisqu'ensuite les Anglais en ont pris possession, et elle n'a été déchiffrée que quelques années plus tard. Mais cependant, les hiéroglyphes étaient remarqués.
Tout à fait. Cette pierre est maintenant au British Museum, comme vous le savez, malheureusement, pourrait-on dire. C'est elle qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes. Je crois que les savants qui accompagnaient Bonaparte ont mesuré, au moins certains d'entre eux, l'importance des textes sur les temples égyptiens, et en particulier Denon, qui écrit de très belles pages dans son ouvrage, pour dire qu'il ne comprend pas, bien sûr, cette langue faite de dessins, mais qu'il s'astreint à la recopier le plus lisiblement, le plus clairement possible, pour que des chercheurs, à sa suite, puissent essayer de la déchiffrer. Et il pense que là se trouvent les clés de cette civilisation qu'à l'époque de Bonaparte, on connaît mal et qu'on comprend surtout très mal.
Le journal de Vivant Denon est très divers. Par moments, il y a une véritable explosion d'enthousiasme.
Oui, tout à fait. Ses goûts sont d'ailleurs étonnants. Il parle, par exemple, avec peu d'enthousiasme de Thèbes et de Karnak. On aurait pu s'attendre à des textes plus élogieux. Mais il va insister longuement, à la fois sur le site d'Hermopolis, où il rencontre le premier portique de style pharaonique. Il est donc tout à fait ému, et puis il parle avec des textes absolument dithyrambiques de Dendera, qui, je crois, l'a complètement fasciné.
Je n'aurai point d'expression pour rendre tout ce que j'éprouvais lorsque je fus sous le portique de Tintira. Je crus être, j'étais réellement, dans le sanctuaire des arts et des sciences. Que d'époques se présentèrent à mon imagination à la vue d'un tel édifice. Que de siècles il a fallu pour amener une nation créatrice à de pareils résultats, à ce degré de perfection et de sublimité dans les arts. Combien d'autres siècles pour produire l'oubli de tant de choses et ramener l'homme sur le même sol à l'état de nature où nous l'avons trouvé. Jamais tant d'espace dans un seul point, jamais les pas du temps plus prononcés et mieux suivis.
Il était cultivé, pour employer un mot moderne, et cela faisait beaucoup dans ce milieu qu'il fréquentait.
Denon n'est pas à proprement parler un lettré comme l'entend l'encyclopédie et comme le sont un certain nombre de ses contemporains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une connaissance, semble-t-il, très limitée des grands écrits philosophiques de l'époque. C'est quelqu'un qui ne cite pas Rousseau, Diderot, Voltaire. C'est quelqu'un qui ne cite pas en italien, qui ne cite pas en latin, qui a une écriture, surtout dans la première moitié de la correspondance, relativement maladroite.
Et pourtant, dans son voyage en Égypte, quand il voit quelque chose, c'est tout de suite une référence à un auteur du passé.
Oui, alors il a ce geste, c'est-à-dire qu'il passe immanquablement par Savary, Volney et quelques références obligées, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui, au fond, se constitue une pensée autonome, sans prendre appui, ce qui était quand même un petit davantage la tradition, sans prendre appui sur ce qui a été fait auparavant, et ce qui fait, à mon sens, la richesse, par exemple, du voyage en Égypte.
À Madame Isabella Teotocchi Albrizzi, à Venise, Paris, 15 mars 1800. Ma chère amie, j'espère que voilà notre correspondance rétablie. Te voilà donc avec un fils, et moi de retour d'Égypte. Nous avons fait tous deux ce qu'il y avait de mieux à faire, mais nous n'avons pas fini. Tu as ton fils à élever, et moi mon voyage à mettre au jour. La différence qu'il y a entre nous, c'est que la fortune de ton ouvrage est faite, et que celle du mien est à faire. J'ai plus de peine ici avec les graveurs que je n'en ai eu avec les Éthiopiens et les Arabes. Ils me ruinent et ne me satisfont pas.
En 1802, Dominique Vivant Denon est nommé directeur du Musée central des arts, c'est-à-dire...
Alors, le Musée central des arts a été inauguré en 1793. Donc, Denon hérite d'un musée déjà assez riche, notamment donc, les collections royales, les saisies révolutionnaires et les saisies italiennes. En Italie, par exemple, déjà les grands chefs-d'œuvre sont là. Le Laocoon, l'Apollon du Belvédère sont déjà en place. Les grands Raphaël du Vatican sont là. Denon va infléchir sa direction vers un musée universel. destiné un peu à rassembler finalement tout ce que l'on pourra prendre dans les collections européennes, un musée européen en fait. Et le terme apparaît dans sa correspondance.
Pierre Rosenberg a fixé au mois d'avril 1999 une grande exposition au Louvre consacrée à Vivant Denon. Pierre Rosenberg.
Le personnage est fascinant. Il a bien sûr été le premier grand directeur du Louvre. Il a joué un rôle absolument essentiel et dans deux domaines. Il a non seulement été le directeur du Louvre, c'est-à-dire celui qui se consacrait au passé, mais aussi le directeur des manufactures de Sèvres, de la Monnaie et aussi de la création artistique contemporaine, qu'elle soit peinte ou que ce soit le mobilier. Donc un personnage qui avait véritablement le pouvoir dans le domaine des arts visuels sous l'empereur et qui a joué de son pouvoir pour véritablement transformer l'idée que l'on pouvait se faire des musées. En fait, on n'y pense même plus. Quand on visite un musée aujourd'hui, on est tout habitué, il paraît tout naturel que les œuvres soient divisées par école et qu'elles soient présentées chronologiquement, que l'on aille de Giotto à Masaccio, de Masaccio à Raphaël et de Raphaël à Tiepolo. Et en fait, c'est non pas une invention de Vivant Denon, de Dominique Vivant Denon, ce serait absurde de le croire, mais l'idée était déjà dans l'air bien auparavant, non seulement en France, mais aussi en Angleterre et en Allemagne. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé ce qui était une idée en une réalité. Cette réalité, ça a été le musée Napoléon. Et c'est quand même assez impressionnant de se dire que ce musée constitué de rapines, en partie, il y avait bien sûr les collections du Louvre proprement dites, fort heureusement, les collections de Louis XIV, etc., les achats de Louis XVI, etc., que ce musée a failli rester intact. C'est dire à quel point la force de conviction du musée et de son directeur, Dominique Vivant Denon, était grande. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour ce qui est des primitifs italiens, qui à l'époque, je le rappelle, étaient méprisés, méconnus, ceux-ci sont arrivés de Florence et d'Italie tardivement, en 1811, 1812. Jusqu'au dernier jour de l'Empire, des œuvres arrivaient encore pour compléter ce musée et pour en faire non seulement un musée qui soit convaincant du point de vue esthétique, selon l'esthétique de l'époque, bien entendu, mais qui soit aussi historiquement aussi complet que possible. Donc il n'y a pas eu un musée Napoléon. Il y a eu lentement une idée qui s'est transformée, qui n'a pas pu être complètement achevé à la chute de Napoléon et qui a été tout de suite, après la chute de Napoléon, évidemment dispersé. Ce qui a fait que Dominique Vivant Denon, aujourd'hui, n'est pas suffisamment connu, c'est tout simplement que l'homme est tellement riche, avait des intérêts tellement variés, une curiosité tellement grande pour tout. Dans sa collection, on trouve des objets africains, on trouve des objets précolombiens, des choses extraordinaires, que personne, jusqu'à présent, n'avait suffisamment de compétences pour le traiter.
Paris, 12 juin 1803. Si je t'aime, ma chère Bettine, demande-le à mon cœur, à mon esprit, à mon habitude qui ne pourrait pas me laisser faire autrement. Demande-le à mes amis, à mes connaissances, à l'univers à qui je parle de ton amabilité, de mon attachement pour toi. Après cela, si tu me demandes des raisons de mon silence, je ne saurais te répondre autre chose sinon que hier encore je voulais t'écrire, que tout à l'heure je voulais t'écrire, qu'hier et tout à l'heure encore, on m'en a empêché.
Vivant Denon dirigeait donc ce musée, qu'il avait appelé Musée Napoléon. Il devait en outre se rendre souvent dans les grandes villes européennes, voire sur les champs de bataille, pour y faire l'esquisse du tableau d'histoire qu'il avait à commander. Il voulait aussi orner les rues de Paris, les ponts, les places. L'arc du carrousel avec son quadrige et la colonne Vendôme qui porte, dessinée, les campagnes de l'empereur témoignent de cette volonté qu'il a de glorifier l'héroïsme. Pour remplir ses tâches, Denon était une sorte de surintendant des arts. Il avait la responsabilité de tous les ateliers, soit une centaine d'artistes, sculpteurs, peintres, graveurs, dessinateurs, médailleurs, lissiers, fondeurs, peintres sur porcelaine. Marianne Dupuis.
Il connaissait bien la psychologie des artistes. Il avait déjà dirigé des artistes lors de son voyage en Italie. Et il sait bien comprendre, il sait très bien jusqu'à quel point il peut insister, refaire faire un tableau, guider aussi les prix, puisque finalement il est chargé de ça aussi. Donc cette ascendance sur les arts se fait progressivement. Denon est une sorte d'expert, en fait. Donc, il sait très bien quel sujet demander, à quel type d'artiste, dans quel format. Il a toujours des tas de listes de sujets à pouvoir commander pour la galerie de Diane aux Tuileries ou pour Fontainebleau. Et il défend les artistes en tout premier lieu. Il pense qu'il faut relancer la création. C'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'iconographie et parce que finalement il prend la direction de la propagande impériale. Donc au début de son directorat, Denon est plutôt bien vu par les artistes. Ils ont l'impression qu'ils vont avoir quelqu'un, un interprète, qui va les défendre, qui va les soutenir et les encourager. Et petit à petit, vu l'inflexion très, très propagandiste que prennent les commandes, il porte un autre regard sur Denon et les caricatures qui apparaissent après 1815, ou peut-être même un peu avant, montrent que quand même il était ressenti comme quelqu'un de, comme le cauchemar du peintre. Il y a un dessin très méchant qui le montre en train de, comme une espèce de tigre ou de chat, agrippé sur le lit d'un pauvre artiste qui n'en peut plus du harcèlement du directeur.
Vingt-sept prairiales en 12. Sire, lorsque Votre Majesté nomme un conseiller d'État, elle en fait sans doute un homme considérable. Mais en faire un homme de goût, je crois que c'est là que faut sa toute-puissance. Vous m'avez ordonné de m'entendre avec les membres de la commission du Conseil d'État pour le sceau et le costume de Votre Majesté. Comment s'entendre avec des gens qui ne savent ce qu'ils veulent et qui ne s'entendent pas eux-mêmes ? Si Votre Majesté veut ne jamais apposer son sceau, si elle ne veut pas être habillée ou si elle veut l'être ridiculement, il n'y a qu'à attendre la décision de la commission.
Il est certain que Denon,
Martin Reed,
est absolument fasciné par Bonaparte, et c'est quelque chose que la correspondance mettra, à mon sens, un petit peu mieux en évidence. Les historiens, jusqu'à présent, ceux qui ont écrit sur Denon, ont facilement laissé cette question plus ou moins dans le brouillard, où on dit qu'il y avait là une sorte d'opportunisme de Denon qui, au fond, avait servi tous les maîtres qui se présentaient.
Oui, car c'est quand même assez vrai. Il a vécu sous beaucoup de régimes. Fort bien,
et semble-t-il, sans état d'âme particulier quant au choix politique que ça impliquait. Et pourtant, j'ai trouvé dans la correspondance avec Isabelle Atteotto une lettre du 6 novembre 1803. Bonaparte a disposé de tous mes moments. Effectivement, il a été nommé une année auparavant directeur du Louvre. Il est rare de pouvoir aimer beaucoup les très grands hommes. Mais je t'assure que plus je vois celui-ci, plus je l'aime. Je me trouve heureux que la dernière époque de ma vie soit consacrée à un être si distingué. C'est un astre brûlant qui ravive mon âme. Je suis tout fier de l'entendre et d'en être quelquefois écouté. C'est la seule infidélité que je t'ai faite. Alors je pense que le propos est fort et montre effectivement que Denon a bel et bien pu être absolument subjugué par le personnage de Bonaparte.
Par le personnage et non par la politique.
C'est une question plus difficile à traiter et je pense que les historiens sont plus à même d'y répondre de manière satisfaisante. On sait que Denon a pu agacer Bonaparte, qu'il l'a traité de vil flatteur en plus d'une occasion et que Denon a eu un réflexe, certes, de servir le pouvoir et d'admirer Bonaparte, mais aussi d'imaginer, de faire passer Bonaparte en image, en quelque sorte, par le recours à une peinture d'histoire qui ferait apparaître le personnage de Bonaparte dans diverses situations plus élogieuses les unes que les autres. On peut aussi faire apparaître quelqu'un qui est quand même très soucieux, voulant mettre l'art au service de la politique napoléonienne.
Vous n'accepterez de monument, sire, que ceux d'un genre qui, en consacrant votre gloire, en donneront la mesure et rendront les nations étrangères tributaires de vos magnificences. Alors, leur image répétée par la gravure et par les descriptions étonnera, comme les événements qui en auront été le motif.
C'est le premier directeur nommé. Auparavant, c'était une équipe d'artistes, une commission.
Et pour employer un terme à la mode, il y avait la gestion du musée, la gestion de toutes ces affaires. Quel homme était Denon à ce point de vue-là?
Alors, c'était un homme sans doute extrêmement organisé. La publication de sa correspondance que nous préparons, plus de 5000 lettres.
Correspondance administrative.
Correspondance administrative, voilà. Correspondance qu'il tient donc du Louvre, parce que son bureau est au Louvre, même s'il dirige la Monnaie des Médailles, Sèvres, les Gobelins, il s'y rend l'inspection de temps en temps, mais en fait c'est plutôt par courrier qu'il dirige ses établissements, c'est-à-dire qu'il avait des dossiers sans doute très bien tenus pour les différents problèmes, parce qu'il fallait aussi qu'il gère les problèmes de chauffage, les problèmes de gardiennage. Il est très soucieux de l'intérêt de ses gardiens. On voit qu'il les défend au moment où ils prennent leur retraite. Il essaie de leur faire avoir des primes. C'était un travail. Les gardiens étaient aussi les installateurs. En fait, c'est eux aussi qui déplaçaient les tableaux, qui les accrochaient, les raccrochaient. Et c'était un mouvement sans doute absolument quotidien, parce que d'une part, le musée était réservé en priorité aux artistes, à qui le musée était ouvert uniquement pendant la semaine. C'était simplement le samedi et le dimanche que le public pouvait venir. Et donc les artistes venaient là pour copier les tableaux et donc faisaient décrocher les tableaux pour pouvoir mieux les copier.
Ces acquisitions, disons, ou ces rapines.
Des saisies, mais il n'y a pas que des saisies. Il achète aussi. Le Bracesco du Louvre, il l'achète. Il croit que c'est un tableau allemand, par exemple, mais il l'achète. Il y a d'autres choses comme ça. Et il y a des dons aussi. Le grand Giulio Romano de Gênes est un don de la ville de Gênes à l'empereur. Mais les Génois le récupéreront en 1815.
Et ça, c'est une contribution de guerre.
Voilà, exactement.
Mais c'était une grande charge de Denon, ce transfert des œuvres.
Oui, c'était très compliqué. Il fallait faire des caisses, des caisses très, très lourdes. Le transfert était souvent long à acheminer. Il y avait quelquefois des pertes en route. Il n'y avait pas que des tableaux qui transitaient. Il y avait aussi un tas de choses, des médailles, des camées, des animaux aussi. Une des premières œuvres que Denon accueille au Louvre, c'est pas lui qui l'a saisie, ce sont ses prédécesseurs, mais c'est la Vénus Médicis, et qui est très très longue à venir, et elle fait partie d'un convoi avec notamment un petit léopard, et alors le convoi est tellement long à venir que la cage devient trop petite pour les léopards qui grandit. Donc il y a des choses comme ça qu'il est obligé de gérer à distance, et il s'impatiente beaucoup, et la Vénus Médicis arrive enfin, il l'installe sur un plateau tournant, de façon à ce qu'on puisse admirer mieux la face, son modelé, et elle est placée en vis-à-vis de l'Apollon du Belvédère, et tout de suite on fait frapper une médaille avec la Vénus Médicis.
Mais alors, 1814, 1815, les revers militaires,
alors,
1814, il a fallu rendre.
Denon reste en place et passe des commandes à la gloire de Louis XVIII, comme il en a passé des commandes à la gloire de Napoléon aussi facilement, a priori. Et puis, 1815, les choses sont beaucoup plus difficiles. Et là, Denon lutte beaucoup pour ne rien laisser sortir du musée qui n'était été d'abord approuvé par le gouvernement de Louis XVIII et par Pradel. Tout le monde vient rechercher un petit peu. Les Anglais, pourtant, n'ont rien à récupérer, mais jouent la mouche du coche, se servent un petit peu au passage. Et c'est assez compliqué. Denon est obligé de raconter presque heure par heure ce qui s'est passé. Il a été menacé d'emprisonnement et il raconte qu'il y a des tableaux qui ont été dans la bousculade, déchirés, arrachés de leur cadre, des choses qui disparaissent. Alors il fait instituer une douane pour que vraiment ceux qui partent soient bien restitués à leurs propriétaires et ne partent pas ailleurs. C'est une période extrêmement troublée et dramatique en fait. Donc ce musée auquel il a participé pendant 13 ans en fait, il dit bien qu'il ne peut s'en enorgueillir, il n'est pas le seul artisan, et qu'il a été en tout point l'homme des circonstances.
Le 3 octobre 1815, Denon écrit au roi.
Sire, mon âge avancé, ma santé dérangée me commande le repos. J'ose donc le demander à votre majesté. Dominique vivant Denon. l'inventaire de la succession de noms, numéro 646 du tome 1. Cuivre doré, un reliquaire de forme hexagone et de travail.
Il y a un point intéressant dans la vie du vivant de nom, plus exactement, on en parle après sa mort, c'est ce reliquaire qui figure dans les inventaires.
Fils surmonté de la croix. Les deux faces principales de ce reliquaire sont divisées chacune en 6 compartiments et contiennent les objets suivants. Fragments d'os du Cid et de Chimène, trouvés dans leur sépulture à Burgos. Fragments d'os d'Héloïse et d'Abélard, extraits de leur tombeau au Paraclet. Cheveux d'Agnès Sorel, inhumés à Loches. Et d'Inès de Castro à Alcobaça. Partie de la moustache de Henri IV, roi de France, qui avait été trouvée entière.
C'est étonnant que cet homme qui a l'air d'être sceptique, de manier l'ironie, qu'il ait rassemblé ce qui semble être le résultat de fidélités multiples.
Au fond, je pense que ça cadre très bien avec le personnage. Le geste du reliquaire est intéressant à bien des égards. D'abord, je pense qu'il souligne ce goût troubadour qu'à l'époque. C'est-à-dire que on a au fond une réinscription, une appropriation d'un objet du Moyen-Âge et son utilisation d'une autre manière, utilisation laïque, en quelque sorte, laïcisée du reliquaire. Et d'autre part, on peut rappeler que c'est à la Révolution française, et en particulier à partir de 1793, qu'on ouvre des tombeaux, si on ne l'avait pas fait auparavant, pour des raisons qui sont officiellement celles de faire la collecte de tous les métaux possibles et imaginables. Et à ce moment-là, on le sait par exemple pour la dépouille de Madame de Sévigné, les gens se précipitent pour couper qui une mèche de cheveux, qui un bout de robe, sur le modèle effectivement d'un rapport à l'objet sacré, à la personne sacrée de l'écrivain, qui rappelle, au fond, qui n'est autre chose que la laïcisation du processus traditionnel de la relique. Vivant de nom, on le sait par un très court récit d'un descendant de Dessé, va procéder de la même manière, va profiter du passage des troupes françaises à Burgos en Espagne pour faire ouvrir le tombeau du Cid et en prélever un détail, j'oublie lequel, de la même manière, quelques feuilles du jardin où se trouve la tombe de Napoléon. Effectivement, le geste est un geste d'attachement, un peu fétichiste, un peu étonnant aussi, sympathique au bout du compte, et comme vous le disiez, qui est bien la preuve d'une volonté d'afficher des passions multiples pour un certain nombre de personnages.
Cheveux du général Dessé. Deux faces latérales du même objet sont remplies l'une par la signature autographe de Napoléon, l'autre contient un morceau ensanglanté de la chemise qu'il portait à l'époque de sa mort, une mèche de ses cheveux et une feuille de saule sous lequel il repose dans l'île de Sainte-Hélène.
Quand Denon me parlait de sa collection, je pensais toujours qu'une heure de sa conversation valait tout ce qu'il avait rassemblé. Mais quel est donc votre secret pour avoir tant de connaissances? Vous avez dû étudier beaucoup pendant votre jeunesse.
À quoi Vivant me répond d'un air aisé. Tout au contraire,
je n'ai jamais rien étudié parce que cela m'a toujours ennuyé. Mais j'ai beaucoup observé parce que cela m'amusait. Ceux qui en savent plus que moi me conseillent. Ce qui fait que ma vie a été remplie et que j'ai beaucoup joui.
C'était Une vie, une œuvre, Dominique Vivant-Denon, le mal connu, une émission de Paul Chavas, avec la participation de Marie-Anne Dupuis, commissaire de l'exposition Vivant-Denon au musée du Louvre en 1999, Pierre Lelièvre, historien d'art, Chantal Orgogozo, conservateur en chef au musée du Louvre, Martine Reed, professeur à la faculté des lettres de Versailles, Pierre Rosenberg, président-directeur du musée du Louvre, Philippe Solers, écrivain. Texte de Dominique Vivant-Denon, Lady Morgan, Elisabeth Vigée-Lebrun et des lettres inédites de Vivant-Denon, lues par Jean Bollery, Blandine Molinier, Maxime Paz. Prise de son, Jean-Claude Aimé, Philippe Carminati, Pierre Garrigue, Étienne Leroy. Mixage, Marie-Dominique Bougot, Patrick Henry. Réalisation, Marie-France Aléon.